93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
Muni de scaphandres autonomes à air comprimé,
l'homme veut toujours aller plus loin, découvrir des endroits même s'ils sont les plus inaccessibles.
À la découverte d'un monde étrange, le monde du silence.
In situ. In situ.
L'histoire de quatre copains d'enfance qui, bien conscients de la rupture entre les jeunes urbains et la nature, se sont investis dans une mission verte et vertueuse, remettre le jardinage au goût du jour. Les créateurs du site Dr Jonquille et Mr Hive veulent dépoussiérer cette pratique, celle qu'on croyait réservée à Tata Simone et ses 100 mètres carrés de potager dans la Creuse. Mais, grâce aux excellents conseils prodigués par Dr Jonquille et Mr Hive, faire pousser des fraises sur son balcon, des légumes sur son perron, de la sauge dans son salon devient un vrai jeu d'enfant parisien. Le slogan de cette start-up prometteuse, tout commence par une graine. Les bonnes idées aussi, visiblement.
C'est pas encore le moment.
Tu penses que c'est quand le
moment ? Bientôt.
In situ.
C'est tout de suite sur Radio Campus Paris.
Tous, Florent est à la réalisation et Guillaume ce soir tout seul à la chronique. Petit teasing.
Yes, du coup je vais parler de l'histoire du blé et de comment est-ce qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui.
Ce sera en quatrième partie, donc à peu près dans 40 minutes. Et nos deux invités de marque ce soir, Gaël Brelet et Daniel Yamba. Salut les gars.
Salut.
Salut.
Alors vous êtes lancé dans un site de vente de graines en ligne, mais pas seulement, comme je le disais, l'idée de Dr Jonquille et Mr Hive, j'adore le nom déjà, est aussi d'accompagner les néophytes dans les pratiques de jardinage, et ce, à toutes les étapes de la culture, hein, de la mise en terre de la graine jusqu'à la cueillette. C'est ça, Yael ?
Exactement, Hugo. C'est un peu le concept du site. Hein. Donc, un site qui vous permet de trouver des semences potagères, aromatiques et florales bio avec une espèce de vulgarisation des pratiques du jardinage. On s'est rendu compte que c'était compliqué pour certaines personnes d'accéder à ça. Et du coup, on a voulu vulgariser le jardinage en utilisant des mots simples et en faisant comprendre à tout à chacun que tout est faisable et tout est facile.
Voilà, donc il y a l'accompagnement. Et vous vendez donc des graines potagères, des graines florales, des graines aromatiques bio. Votre cible, c'est tout le monde, Daniel ?
Oui, tout à fait. Tout le monde, je pense que tout le monde peut jardiner, que ce soit les plus jeunes. Hein. On l'a tous fait quand on était enfant. On a commencé à mettre des graines dans du coton. C'est très pédagogique.
Les noyaux d'avocat, je me souviens, on l'a tous fait.
Les lentilles aussi.
Et les lentilles. Florent, toi qui étais, qui n'as pas eu la chance de vivre dans un environnement très végétalisé quand tu étais gamin, tu as fait ça aussi ?
Mais j'ai fait pousser plein de lentilles jusqu'à ce qu'elles soient très 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 hautes et qu'elles retombent. Voilà.
Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, ça s'arrête. Et vous, ce que vous aimeriez, c'est démystifier un peu le jardinage et montrer que c'est accessible, que tout le monde peut le faire et que c'est aussi sympa et que ça ne doit pas être réservé qu'aux pires retraités qui ont
Exactement.
Du temps et du terrain.
Exactement. La plupart du temps, on arrivait à ce constat que le jardinage, il faut un peu le désacraliser. Il y a pas mal de gens qui pensent que c'est compliqué. Nous, de par notre expérience personnelle, on s'est rendu compte que ce n'était pas si compliqué que ça, que c'était assez simple et que n'importe qui peut le faire. En fonction de la surface disponible, du temps disponible, des compétences, il y a en fait des plantes, des variétés adaptées à tous les goûts.
Oui, on y reviendra, on donnera des exemples tout au long de l'émission. Alors racontez-nous un peu votre histoire à vous. Vous êtes pas, vous n'avez pas spécialement la main verte à la base. Vous êtes un peu vous êtes devenus des citadins au fil du temps. Qu'est-ce qui vous a pris un jour de vous lancer là-dedans, Gaël ?
Alors effectivement, Hugo, on s'est trouvé un peu une passion il y a 2-3 ans à se mettre à jardiner. Chez les uns dans les appartements, chez les autres sur les balcons, etc. Et on a toujours eu envie de créer une entreprise ensemble, entre amis, et on s'est retrouvés à Madrid, dans le jardin botanique de Madrid, en ayant une très très belle idée, celle de créer une entreprise liée aux semences, liée au monde des semences, liée au jardinage. Mmh.
Et c'est alors, il faut dire que vous êtes quatre, hein, c'est ce que je disais à la base. Exactement. Et là, donc, il y a les deux représentants. Donc, toi, Daniel, tu habites à Paris. Et Gaël, toi, tu es toulousain.
Dans la ville rose.
Dans la ville rose. Ouais. Mais tous les deux originaires de Vendée, c'est exactement, incroyable. Et comme les quatre d'ailleurs qui ont lancé l'entreprise. Exactement. Docteur Jonqui et Mr. High, c'est drôle, ça, qui a trouvé le nom?
C'est Daniel, c'est le grand Daniel.
J'ai trouvé ça, effectivement, je trouvais ça assez drôle. Alors paradoxalement, on va ni Jonqui ni High, puisque la Jonqui notamment, c'est un bulbe, mais on trouvait le terme assez drôle, assez intéressant, et qui marquait bien les différentes variétés qu'on propose. Donc on a à la fois la dimension aromatique, la dimension nourricière avec des plantes potagères, et puis également avec la jonquille, on a cette dimension ornementale, et nous on propose également des fleurs.
Et alors, moi je vais vous poser une question toute bête, si demain je veux avoir des plantes ornementales ou des plantes potagères, je ne vais pas forcément avoir l'idée d'acheter des graines, je vais plutôt acheter des plants.
Oui.
Pourquoi, selon vous, c'est mieux, parce que c'est votre, votre c'est argument un peu notre de marketing, c'est de dire voilà, il faut plutôt planter des graines que des plants. Pourquoi?
Alors nous, notre vision, notre idée, c'était effectivement de proposer un service qui soit durable, responsable, et effectivement, comme tu le dis Hugo, comme vous le dites Hugo, je sais pas trop.
Tu peux tutoyer ici, tutoyer. On n'est pas européen, hein, t'inquiète.
Alors comme tu le dis Hugo, on peut tous acheter en supermarché, en jardinerie, des plantes déjà prêtes à planter, et finalement... On n'a pas besoin on gagne du temps, c'est directement joli, on peut le mettre sur son balcon. Maintenant, l'intérêt finalement de semer des graines, c'est déjà retrouver son ingénuité des plus belles années quand on était jeune, de voir cette petite graine pousser. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant jour après jour, de voir l'évolution, suivre le cycle, le processus du début à la fin. La deuxième chose, c'est beaucoup plus économique. Quand on achète un sachet de graines à 4 euros, on va avoir, par exemple, si on prend des pieds de tomates, on va avoir une trentaine de graines. On va en faire pousser, on va en faire germer facilement une vingtaine. Un pied que vous allez acheter en supermarché, ça va vous coûter le même prix, 4 euros. Vous n'êtes pas sûr de sa provenance, par ailleurs. Donc c'est quelque chose qui a pu être traité auparavant, c'est quelque chose qui a pu être entreposé pendant plusieurs semaines, donc vous n'êtes pas sûr de sa provenance, vous n'êtes pas sûr de comment il va évoluer par rapport à ça, et nous on propose que des graines bio. Donc ce qu'on sait, c'est que les graines bio ont cette capacité de se développer d'une meilleure manière, et voilà, vous connaissez la provenance, c'est du fait maison, donc on sait comment avancer par rapport à ça.
Donc vous faites des graines bio, c'est quoi le cahier des charges, Gaël, des graines bio? Qu'est-ce qui fait qu'une graine soit bio?
Mais une graine bio, c'est une graine qui vient d'une plante bio, tout simplement. Alors pourquoi choisir des graines bio plutôt que des graines non bio? C'est pas compliqué, hein. Une graine qui est issue d'une plante qui est non bio, c'est une graine qui est issue d'une plante qui a été vraisemblablement traitée. La graine qui en résulte de la semence traitée, c'est une graine aussi qui va être retraitée ensuite. C'est-à-dire que pour pouvoir l'envoyer, pour pouvoir la traiter contre les maladies, retraite ensuite la graine. Nous, les graines bio qu'on propose, c'est des graines qui sont issues du coup de plantes non traitées, donc biologiques. Et on a coutume de dire que les plantes qui sont issues de les graines, pardon, qui sont issues de plantes biologiques sont plus résistantes puisque elles viennent d'une plante qui a été non traitée. Donc la plante toute seule est arrivée à maturité, à créer des graines sans être traitées. Donc on a coutume de dire que les graines biologiques sont plus résistantes que des graines non biologiques, et donc les plantes biologiques sont plus résistantes.
Donc voilà, donc semer, ça, c'est plus sympa, c'est mieux pour votre portefeuille, et puis également, c'est plus responsable comme pratique.
Vous êtes déjà rodé, hein? je suis impressionné.
Prend l'exemple de la tomate, là c'est un peu tard pour semer, non?
Ah, la tomate, non.
Qu'est-ce qu'on peut semer là? Qu'est-ce qui est disponible?
Il n'y a pas de mal de choses. Là, on est vraiment dans la bonne période.
C'est
la meilleure période, effectivement. Il fait encore un petit peu froid le soir, donc on vous conseillera plutôt de faire ce qu'on appelle des semis. Donc, il faut semer les graines dans un petit godet ou dans des pastilles de tourbe ou même dans du coton. pour que le jeune plant se développe. Mmh. Et ensuite, vous allez faire ce qu'on appelle le repiquage, donc replanter, mmh, une fois que les jours seront plus cléments.
Ouais. Mais ça, on y reviendra un peu plus en détail après. Mais juste, Gaël, je voulais avoir quelques espèces.
Idées. Ouais, ouais. Quelques espèces. Aubergines, carottes, coquelicots. Mmh. Le thym, la coriandre, les cosmos,
Les plantes aromatiques. Là, actuellement, c'est vraiment la meilleure période. Il y a quasiment tout qu'on peut semer. Vous oubliez les choux, par contre. Les choux, c'est un peu plus tard quand même.
Ouais, les choux, c'est plutôt l'hiver.
Je suis, petite devinette, je suis champion des antioxydants et symbole du 11 novembre. Les seules fleurs avec les coquelicots à avoir poussé sur les champs de bataille. Exactement. De la Grande Guerre. Est-ce que vous savez de quelle
la mère
fleur je parle?
Mais le bleuet.
Voilà, le bleuet. Exactement. Une des fleurs qu'on peut retrouver, enfin des graines qu'on peut retrouver sur le site Dr Jonquille et Mr Eye. Et plein d'autres informations, on y reviendra tout au long de cette émission. Juste après une petite pause, à tout de suite. C'est Laurent Voulzy, le pouvoir des fleurs.
Très très bon choix musical de la part de nos invités, bien sûr. Que je
tout à fait. Nous sommes de retour in situ avec donc Gaël Brelet, Daniel Yamba, aux goûts musicaux très intéressants, et fondateur de Docteur Jonquille et Mr. High. On jardine tranquillement dans notre salon et c'est sympathique.
In situ, au cœur de la science,
sur Radio Campus Paris.
Daniel, je disais qu'on jardinait dans notre salon. Oui. Ça, c'est la question que je me pose et qu'on se pose, qu'on a beaucoup à se poser, les auditeurs là, de Radio Campus Paris, qui habitent dans un appartement pour la plupart. Exigu. Est-ce qu'on peut... Comment ?
Un appartement exigu.
Exigu, tout à fait. Tu emploies des mots, c'est bien, à dessein. est-ce qu'on peut planter des choses à l'intérieur et notamment des semences potagères ?
Tout à fait, oui.
Vous pouvez, c'est vrai, on peut faire pousser un concombre, une courgette à l'intérieur d'un appartement ?
Il faut ouvrir la fenêtre puisqu'il faut qu'il y ait la pollinisation. Donc
Ah oui, ce sont des plantes entomophiles, comme on dit, qui sont dépendantes des insectes pollinisateurs, n'est-ce pas, Gaël ?
Exactement. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. J'ai moi-même chez moi une table potagère, c'est-à-dire que elle est à l'intérieur de mon appartement. J'ai les fenêtres ouvertes tout l'été. Et du coup, les plantes poussent à l'extérieur au travers de la fenêtre. Donc ça marche très bien. J'ai fait pousser des tomates, j'ai fait pousser des piments, j'ai fait pousser du basilic, j'ai fait pousser tout un tas de choses à l'intérieur de mon appartement avec les fenêtres ouvertes.
D'accord. Donc si on sait pas, on n'est pas sûr, on sait pas comment les plantes se reproduisent, dans le doute, on laisse ouvert.
Les aromatiques, c'est très sympa. Les aromatiques, c'est très le basilic typiquement en intérieur, c'est quelque chose que on peut mettre derrière une fenêtre. Il faut un peu de chaleur, donc derrière une fenêtre, c'est plus intéressant. Dans la cuisine également, ça peut être pas mal.
Dans la lumière aussi.
De la lumière un peu. Mais toutes les aromatiques sont pas mal pour l'intérieur. Un rebord de fenêtre. Un petit balcon, une jardinière, c'est pas mal. Hein, on n'a pas besoin d'énormément d'espace, comme on disait. Une table potagère aussi, vous pouvez la construire vous-même.
Florent, qui a l'air d'être très intéressé par la démarche.
Je suis en train de me demander, du coup, les aromatiques, il n'y a pas besoin de pollinisation, c'est ça ? Ça peut vraiment pousser complètement en intérieur ?
Ouais, en fait, on parle. Enfin, il y a besoin de pollinisation quand on s'attend à avoir des fruits ou des légumes. Les herbes aromatiques, en l'occurrence. On n'a pas besoin d'attendre la pollinisation. Le basilic fait des fleurs, la ciboulette également, mais on n'a pas besoin d'attendre que ça monte en fleurs pour pouvoir les consommer.
C'est ça. D'ailleurs, on consomme les fleurs
oui,
du
basilic.
Oui, et
pas les fruits.
Exactement. Et en fait, ce qui est souvent conseillé, c'est de ne pas laisser monter en fleurs le basilic.
D'accord. Bon, et si on veut sortir un peu de son appartement, si on n'a pas la place, pas envie de foutre de la terre partout, où est-ce qu'on peut semer vos graines dans les grandes villes ?
Alors, ça peut être de manière formelle. Il y a des jardins partagés qu'on peut trouver un peu partout. Hein. Vous pouvez aller sur le site de la mairie de Paris, vous trouverez dans n'importe quel arrondissement.
À Toulouse aussi, il y en a ?
Alors oui, à Toulouse, il y a des jardins partagés. Il y a même une sorte d'application hein, qui s'appelle Adopte ma tomate, qui propose en gros de prêter son jardin et d'inviter des éventuels jardiniers à cultiver un potager chez soi. Donc du coup, c'est de l'échange de bons procédés. Donc, je tiens à le dire, hein, la Ville Rose est très active aussi sur le sujet.
Et puis si vous êtes un peu plus militant, vous pouvez faire ce qui s'appelle le guérilla gardening, mettre des plantes un peu sauvages. Comme...
Ça, c'est illégal, Daniel.
Je sais pas si c'est illégal.
Explique rapidement, en fait, c'est des militants.
Je ne sais pas si c'est illégal. Je sais que vous pouvez... Le guérilla gardening, c'est un mouvement qui est apparu aux États-Unis dans les années 70, si je me rappelle bien. Et l'idée, c'était finalement de mettre des plantes dans des zones urbaines, donc typiquement dans des friches et... avec par exemple ce qu'ils appellent des seed bombs, donc c'est des petites bombes avec à l'intérieur une graine et recouvert de calcaire et de nutriments pour le développement de la graine que vous envoyez dans une friche. Et en général, c'est des fleurs sauvages, donc typiquement coquelicots, ça peut être des bleuets dont on parlait auparavant, et qui vont se développer. Pas besoin forcément d'envoyer ces seed bombs, vous pouvez également juste planter au bord des pieds d'arbres, vous pouvez mettre ça dans le creux d'un arbre, voilà, il y a pas mal de petites choses que vous pouvez faire dès que vous avez un bout de lopin de terre qui est à votre portée.
Et un esprit créatif.
Et un esprit créatif.
En parlant d'esprit créatif, excuse-moi Guillaume.
Et pourquoi est-ce que ce serait illégal ? Parce, que tu dis
bah parce qu'on peut pas faire ce qu'on veut, j'imagine, dans l'espace public. J'ai pas le droit de planter un chêne, je sais pas moi, sur le sur ah, le la
un
chaussée
petit
quoi.
Basilic par terre à côté d'un arbre du voisin.
Mais après, je suis pas sûr de mon coup. Hein, c'était une question. On vérifiera, on fera du fact-checking là. Ouais. En parlant de créativité, en plus j'avais une bonne relance. vous proposez donc les classiques là, les tomates, courgettes dont tu viens de parler, mais des variétés un peu plus originales, Gaël.
Oui, oui, Hugo, on a des petites choses originales. On a des tomates bleues, comme la Fahrenheit Blue, c'est des petites...
Ah, des tomates bleues, ça, alors ça, tu m'as... J'y croyais pas, disons.
Eh bien, si, 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 il faut le voir pour y croire. Ce sont des petites tomates cerises
bleues. Tu connaissais, Florent, toi, les tomates bleues ?
Absolument pas, et je me demande bien quel goût ça a, d'ailleurs.
Eh bien, on dit qu'elles sont très sucrées et très douces, et il y a une très bonne productivité sur cette semence. On a la courgette jaune aussi, la courgette gold, qui est très sympa aussi, et différentes sortes de basilic. Donc, on est habitué au basilic grand vert avec des grandes feuilles. On a le basilic cannelle qui a des petites touches de rouge à son centre et le basilic pourpre qui est entièrement rouge pourpre.
Et comment ça se fait qu'on les retrouve pas dans le commerce?
Alors on peut les retrouver dans le commerce mais plus difficilement. Donc nous c'est un choix, c'est un parti pris qu'on a fait de sélectionner des semences qui sortent un peu de l'ordinaire puisque semer des tomates qu'on va retrouver grosso modo dans les magasins, c'est pas ce qui intéresse nécessairement les gens. Trouver par contre des variétés qui sont un peu plus originales, des fois plus bixcornues, mais bien plus goûtues, c'est quand même plus sympa.
Où est-ce que vous fournissez? Quels sont vos grossistes? Disons, je ne sais pas qui veut répondre.
Eh bien, on a trois fournisseurs actuellement en France. Donc, ce sont des fournisseurs français qui nous fournissent la totalité de nos graines. Donc, il y en a qui sont plus spécialisés sur les semences florales, donc du coup, qui produisent leurs graines de fleurs, et d'autres qui sont plus spécialisés sur les semences aromatiques ou potagères. Donc, on a regardé qui étaient les personnes, enfin les producteurs intéressants pour nous, bio et éthiquement qui correspondaient à ce qu'on souhaitait. Et on a.
Très rapidement, on peut aborder le contrôle et la certification des semences. C'est quelque chose qui est très contrôlé, très rigide et qui est encadré par le Groupement National Interprofessionnel des Semences, c'est ça ?
Le GNIS, exactement.
Voilà. Et en fait, le principe, c'est que toutes les semences commercialisables doivent être référencés au catalogue officiel. C'est
exactement.
Ça
toutes les semences que vous pouvez vendre doivent être enregistrées au catalogue officiel. Mmh. Donc, qui était jadis le catalogue officiel français, mais qui est maintenant le catalogue officiel européen, qui regroupe aussi des variétés anciennes de légumes.
Et ce qui permet pour les professionnels, mais pour vous aussi, de ne pas avoir de surprise, c'est-à-dire quand vous achetez des graines, savoir que ça va donner le fruit, enfin la plante et le fruit qu'on attend.
Exactement, ça assure ça. Il y a aussi des règles phytosanitaires liées à comment à ce catalogue. Ça nous permet d'être sûr des semences qu'on va acheter. Et à la base, ça a été créé en fait pour qu'on pour éviter que plusieurs variétés soient vendues sous le même nom ou qu'une même variété soit vendue sous plusieurs noms. La base de la base, la genèse de ce catalogue officiel, c'était ça.
Florent.
Oui, je me demandais du coup ce passage du catalogue français à un catalogue européen, est-ce que ça a permis justement que des semences qui n'étaient pas commercialisées en France deviennent commercialisables ?
Eh bien, c'est une très bonne question
auquel nous répondrons en fin d'émission en menant nos recherches pendant la pause musicale. Pause musicale qui devrait arriver incessamment sous peu puisque le temps file. Une fois qu'on détient la graine, faut-il encore pouvoir la faire pousser, n'est-ce pas, Gaël ? Docteur Jonquille et Mr. Eye sont là pour nous guider. Et vous allez voir, tout est une question de timing. À tout de suite.
Could you be squeaky clean, smashing the O of democracy?
C'était Tears for Fears, Swing for Seeds of Love. Sorry for my French accent. Et nous sommes de retour, donc bien en France, à Paris, in situ, avec Gaël Brolet et Daniel Yamba, fondateurs de Dr Jonquille et Mr Eye, avec nous jusqu'à 21h.
In situ.
Une plongée dans la science.
Sur Radio Campus Paris.
Daniel, vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'on pouvait semer à peu près tout en ce moment, mais on peut suivre des différents calendriers pour savoir à quel moment semer telle ou telle graine en fonction des variétés.
Alors oui, effectivement, il y a des variétés qui sont... il y a un calendrier à suivre, classique, que vous pourrez retrouver sur notre site. et puis, par ailleurs... un certain nombre de jardiniers suivent également le calendrier lunaire.
Alors là, il faut prendre ça avec des pincettes. C'est ce qu'on appelle la biodynamie.
C'est une partie de la biodynamie, en fait. D'accord. La biodynamie est beaucoup plus large. La biodynamie, en fait, prend en compte comment on peut traiter son jardin comme un organisme vivant et pour en maximiser l'autonomie, et se base notamment sur les énergies cosmiques et astral.
Voilà, c'est là qu'on commence un peu à déraper. Je sais pas ce que t'en penses, Florent. Toi qui es le garant de la scientificité de cette émission.
Moi, les énergies astrales, je suis pas sûr que les plantes se préoccupent de Pluton, quoi. Mais bon, je dis ça comme ça.
Alors, la Lune, en revanche.
De la Lune, oui, par exemple.
Peut-être, c'est un peu plus proche.
Ouais. Oui, c'est bien connu que, effectivement, la Lune a un impact sur les marées, mais également sur les plantes. Typiquement, il y a des jours où il ne faut pas du tout jardiner. Donc, il y a le jour qu'on appelle qui est la périgée, quand la Lune est à son point le plus proche de la Terre, il ne faut pas jardiner. L'apogée également, il ne faut pas jardiner lorsqu'elle est à son point le plus éloigné de la Terre. Et il y a un autre jour qui est un peu plus complexe à expliquer, c'est ce qu'on appelle les nœuds lunaires. Le nœud lunaire, c'est quand... voilà, la Terre tourne autour du Soleil, la Lune tourne autour de la Terre. Lorsque la Lune arrive dans la trajectoire de la Terre par rapport au Soleil, si on est en pleine Lune ou en nouvelle Lune, ça va créer une éclipse. Autrement, ça arrive deux fois par mois. Autrement, on va être en nœud lunaire et c'est pas très bon de jardiner ce jour-là.
Gaël.
Alors pour pas faire peur à tout le monde, hein, on peut.
Oui, parce que là, je pense que t'as fait fuir pas mal de gens.
Bon, moi, mon expérience, c'est que j'ai semé sans faire du tout attention à la lune et tout est parti. Peut-être, par contre, moins bien que si j'avais fait attention aux pleines lunes.
Comment tu sèmes ta graine? Bon, moi qui n'y connais pas grand-chose, je vais partir du principe qu'il suffit de l'enfoncer à 2 cm du sol. Or, il y a plusieurs techniques et ces techniques sont dépendantes de la variété qu'on sème.
Exactement, Hugo. Alors, grosso modo, on va dire que ça dépend de la taille de la graine.
C'est pas la taille qui compte, on dit en général.
C'est pas la taille qui compte, exactement. Par contre, plus on va avoir une petite... ça y est, on est parti. En gros, on va semer à la volée des graines petites. Et on va mettre sous terre à différentes profondeurs.
Semer à la volée, c'est en gros les balancer
exactement.
Sur ton...
Exactement.
Comme comment tu
parlais... À la salt bee. Voilà, alors, je ne sais pas si vous connaissez ce turc qui tient un restaurant...
Qui saupoudre de sel.
Il saupoudre de sel la viande. Alors les végétariens, désolé. Mais en tout cas, voilà, grosso modo, on a coutume de dire qu'on enfonce dans la terre la graine de sa taille. C'est-à-dire que si on a une graine qui fait 1 cm, on recouvre de 1 cm de terre la graine. Voilà, grosso modo, c'est ce qu'on a coutume de dire. Et surtout, il faut pas... enfin, c'est très important de bien arroser au moment où on fait le semis. Et on a beaucoup de personnes aussi qui sèment sous serre. C'est-à-dire qu'il y a des mini-serres qui existent. Alors, le mieux, c'est des mini-serres en verre, hein, pour éviter le plastique. Et donc, du coup, ces mini-serres en verre nous garantissent une ambiance un peu tropicale, avec beaucoup d'humidité. Et donc, du coup, la graine est dans de la terre qui est toujours humide. Et donc, si vous mettez une petite serre derrière une fenêtre avec ce garantie d'humidité, vous êtes sûr à 100% de faire partir vos graines.
Donc, tout ça, voilà. C'est des conseils que vous donnez sur votre site. Je vous donne un petit exemple. Les semis de poivrons nécessitent une température supérieure température à 20 degrés. Il est donc conseillé de les placer dans une pièce lumineuse et chauffée de la maison à planter en extérieur. Après les dernières, je les vois, le genre de petits conseils, de petites informations qu'on peut retrouver sous donc, la plante concernée, enfin la graine concernée sur le site internet.
Voilà, c'était notre credo. Non, c'était notre credo. On souhaitait apporter un certain nombre de conseils qui soient adaptés à l'interlocuteur avec un vocabulaire qui soit compréhensible de tous.
Voilà. Deuxième exemple, Mr. Hyde. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que vous faites jouer les deux personnages. Donc, il y a le Dr. Jonquille et le Mr. Hyde qui vont de leurs petites explications différentes. D'ailleurs, ils ont deux rôles différents, les personnages ?
Ouais, exactement. On a voulu donner à Dr. Jonquille le rôle du professionnel du semis et à Mr. Hyde le rôle du professionnel de l'entretien. En gros, encore une fois, on a essayé de vulgariser le plus possible les explications pour que tout le monde puisse se l'approprier.
Mr. Hyde, d'ailleurs, professionnel de l'entretien, dit à propos des haricots, « Après 2 semaines, il est recommandé de renforcer les tiges, je ne savais pas ça, de vos pouces, oui. 15 cm en moyenne, pour se faire mettre de petits monticules de terre au pied de chaque plant jusqu'aux 2 premiers cotylédons, les 2 petites feuilles. Qui, voilà.
Exactement.
Allez voir sur Wikipédia pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. et ils vont être solides ensuite comme des rocs. Voilà.
Exactement. En gros, fait de mettre un peu de terre, ça va renforcer le pied. Et donc, du coup, on aura moins de phénomènes de pieds de haricots qui peuvent tomber ou autre. Donc, du coup, ça renforce le pied quand on met des monticules de terre à une certaine hauteur.
Et c'est vrai qu'on apprend plein de choses, du coup. C'est ça qui est intéressant.
C'est ça. C'est intéressant.
Quand on achète nos haricots en boîte au supermarché, on pense pas que. Même si je pense que les professionnels respectent pas tout à fait les mêmes procédés. Remarque peut-être.
Mais en fait, généralement quand on achète des sachets de semis dans la grande distribution, on se retrouve avec des explications très basiques mais aussi à la fois assez compliquées. On sait pas trop comment faut faire, on sait pas trop comment on peut procéder. Nous en fait ce qu'on a derrière notre sachet, c'est un QR code qu'on flash et on arrive sur le site, et donc du coup c'est forcément beaucoup plus complet, on a plus de place et donc du coup on se permet de compléter certaines choses, et puis c'est un peu plus ludique quoi. On a deux personnes qui...
Alors il y a un truc qui est aussi super intéressant et que je savais pas, les associations de plantes. Par exemple, on peut pas mettre des... c'est plutôt conseillé, pardon, excusez-moi, de mettre des carottes et des poireaux.
Exactement, c'est ce qu'on appelle...
À côté, pourquoi ?
C'est ce qu'on appelle le compagnonnage. Alors, en fait, l'idée, c'est de faire fonctionner les plantes ensemble. Donc, on va mettre effectivement des carottes et des poireaux ensemble. Pourquoi ? Parce que l'odeur du poireau éloigne les mouches des carottes, et les mouches des carottes pondent des petites larves au pied des carottes. Et idem, l'odeur des carottes éloigne les mouches des poireaux, qui pondent à nouveau des larves au niveau des poireaux. Donc en fait, ça c'est le compagnonnage. Il y a d'autres exemples, notamment si vous avez des araignées rouges ou autres, vous mettez du radis. Le radis, c'est quelque chose que détestent les araignées rouges. Si vous avez...
Où est-ce qu'il y en a des araignées rouges ?
Des araignées rouges, typiquement dans les framboisiers, sur les piments. Moi, je sais que j'en avais alors que j'étais en intérieur. Et donc, du coup, semer du radis, c'est quelque chose qui permet de les éloigner. Et si vous avez des problèmes de moustiques aussi, on a coutume de dire que vous mettez des jardinières de basilic à votre balcon et vous avez peu de chances d'avoir des moustiques chez vous l'été. Voilà, et donc le basilic éloigne également certains insectes dans votre potager. Et
donc ça, vous expliquez tout ça aussi. Alors, il y a le fait aussi que les haricots chargent la terre en azote.
Oui, complètement. Alors, en fait, l'azote, c'est un élément fertilisant. Donc, les plantes ont besoin d'azote pour pousser.
Comme le phosphore.
Exactement. Et en fait, en mettant des haricots, des fèves ou des pois avec vos tomates ou autres, vous apportez des bénéfices, enfin des nutriments qui vont être utiles pour la pousse des tomates ou autres.
Et ce qui permet d'éviter d'utiliser des produits phytosanitaires. C'est un peu le principe, Daniel, de la permaculture, optimiser les conditions pour être le moins gourmand en énergie, en eau, et pour éviter d'utiliser des produits phyto.
C'est exactement ça, en fait. L'idée, c'est d'avoir une diversité pour que chacune des plantes, pour qu'elles soient complémentaires et qu'elles apportent un certain... ce dont elles ont besoin. Donc la permaculture, c'est une technique de planification et d'aménagement pour favoriser la biodiversité. Et ce qu'on le voit dans les monocultures, c'est que finalement, on ne retrouve pas cette biodiversité. Mmh. Et pour faciliter, par exemple, on va en parler, je pense, plus tard, mais pour faciliter le développement des abeilles, ce genre de choses, le fait d'avoir plusieurs plantes associée va leur permettre, ou des plantes mellifères par exemple, ça va leur permettre de se développer d'une meilleure manière. Donc voilà.
Florent.
Oui, je me demandais, quand on parle d'association comme ça de plantes, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'elles soient dans le même pot ? Il faut qu'elles soient à proximité ?
À proximité.
C'est exactement ça, à proximité. Par exemple, pour l'azote, c'est dans la même terre. Mais néanmoins, si vous voulez mettre des pieds de basilic dans des pots à côté de vos pieds de tomates, ça aura la même importance, puisque c'est l'odeur du basilic qui indispose certains insectes. Donc, vaut mieux les semer les uns à côté des autres.
Tu me disais aussi avant l'émission, Daniel, que le compagnonnage, ça concerne aussi, pas uniquement les végétaux, mais aussi les animaux.
Oui, c'est ça. C'est le principe de la permaculture. C'est vraiment l'utilisation efficiente de toutes les ressources et pas seulement des ressources végétales. Donc, on peut associer ça par extension avec les animaux. Donc, typiquement...
Donc, les insectes pollinisateurs, exactement. Ce que tu as mentionné tout à l'heure, oui.
Les oiseaux sont très pratiques pour repousser les nuisibles, les petits oiseaux. Donc, vous pouvez mettre des mangeoires pour attirer ces oiseaux qui ensuite vont pouvoir... repousser les insectes nuisibles. Par contre, ce qui est le petit côté gênant, c'est que des gros oiseaux peuvent venir, comme des pigeons, des merles. Donc une petite technique de la vermiculture, c'est d'utiliser ce qu'on a à proximité. Et si vous avez un arbre avec des petites branches, vous pouvez les mettre autour de votre potager. Ces branches vont être utilisées un peu comme ce que vous retrouvez pour repousser les pigeons sur les balcons parisiens. Vous pouvez utiliser ces petites branches pour repousser les plus gros oiseaux. Les petits oiseaux pourront toujours venir dans le potager.
Ça vous inspire, les gars, non, Florent ?
Bah, moi, ça m'inspire surtout une question. Est-ce qu'il n'y a pas le risque avec ces mangeoires de devoir partager la récolte avec les oiseaux ?
Parce que moi, dans mon
salisier, ils n'étaient pas toujours... Justement, c'est pour ça que je disais les petites branches, ça va vous permettre d'éloigner. En fait, les petits oiseaux, c'est pas eux qui vont aller manger les jeunes pousses, c'est plutôt les gros oiseaux. Et donc, c'est ceux-là qu'il faut repousser. Et vous pouvez avoir des petites techniques, ou alors sinon, vous pouvez mettre sous mini-serre un certain nombre de
pousses. Gros épouvantail à l'ancienne.
Pourquoi pas. Ouais. Exactement.
Avec les beaux CD qui font plein de lumière.
Non, Guillaume, t'avais pas de questions.
Non.
Bon, on va revenir à votre démarche. Donc, au-delà de fournir des graines de qualité qui produisent de bons fruits et de beaux légumes, il y a l'aspect aussi reconnexion des gens à la terre, à l'essence des aliments, au cycle naturel. Ça, c'est quelque chose auquel vous pensez, qui porte votre projet ? Daniel ou Gaël ?
C'est la vision qu'on a vraiment, c'est effectivement, on voulait créer quelque chose de durable, qui soit intéressant. Et donc, c'est cette vision qu'on a, c'est, on avait le jardin traditionnel avec le jardin à la française qui est purement ornemental. L'idée aussi, c'est aujourd'hui de proposer quelque chose qui soit nourricier ou aromatique, pour donc quelque chose d'un peu plus complémentaire que chacun pourrait développer.
Parce qu'il y a des vertus aussi, ne serait-ce que pratiquer le jardinage, c'est extrêmement bénéfique pour plein de choses, hein.
Oui,
c'est anti-stress.
Il y a des études qui sont sorties là-dessus récemment, notamment une étude norvégienne qui avait été faite auprès de 380 employés. Et du coup, on sait qu'il y a des vertus aux plantes. Alors après, nous, on ne s'est pas étendu sur le sujet, on a juste pris nos cas particuliers. Le fait de se reconnecter et de semer et d'avoir un potager, même en appartement, même sur un balcon, c'est quelque chose qui est très sympa et qu'on appréciait particulièrement. Et je pense que le fait de faire pousser soi-même, c'est très gratifiant.
Oui. Bon, et puis il y a des études aussi qui sont en cours. Rien n'est très établi pour l'instant, mais c'est sûrement aussi anti-pollution. Alors, ça purifie l'air aussi, le fait d'avoir des végétaux. Bon, à l'extérieur, ça on le sait, mais à l'échelle d'une pièce ou d'un appartement, on pense que ça... En tout cas, ça participe aussi à la reconnexion avec la nature, le fait d'être entouré de végétaux. Et je suis tombé sur une étude de Journal of Experimental Psychology, là, très récente, qui... on arrive à la conclusion que qu'il suffit d'enrichir son bureau avec un peu de plantes pour gagner 15% de productivité.
C'est ça. C'est apaisant, c'est motivant et c'est un peu de l'acupuncture urbaine.
Ouais, le mot est lâché. Acupuncture urbaine.
Il non, est mais présent, c'est ça, c'est Daniel. Une petite action bien ciblée comme l'acupuncture qui va pouvoir, qui va permettre à la fois à l'organisme ou à la ville de vivre d'une meilleure manière.
Guillaume, tu fais un peu de jardinage, t'as un potager, tu as des plantes ornementales dans ton appartement.
Justement, j'ai acheté une jardinière et un terreau et je cherchais des graines.
Ah ben voilà, c'est pas mieux tombé.
Non, c'est clair.
Il y a combien de graines dans un sachet que vous vendez ?
Ah ben, ça dépend. Ça dépend complètement. Il y a des semences qu'on propose qui tournent aux alentours de 15 graines, notamment les courgettes ou autres. Et puis, il y en a d'autres qui sont bien plus nombreuses, comme le coquelicot. On a 750 graines dans un sachet. Mmh. En fait, ça dépend de...
Et vous offrez la livraison à partir de 35 euros, hein, ce que
c'est
j'ai
ça.
Vu.
Alors,
faut que j'arrête de faire la promotion de l'article, ça va être louche.
Ce qui est vraiment le plus intéressant sur le site, si on doit vraiment dire une chose et que à retenir, c'est qu'en gros, la totalité de nos envois sont réalisés sans plastique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de mettre en avant, c'est que on fait le moins de plastique possible. On a le moins de plastique possible, c'est-à-dire zéro dans tout ce que vous allez recevoir. C'est du carton pour protéger les graines. Les sachets sont en craft, les étiquettes sont en papier. Et donc ça, c'est garanti sans plastique. Et l'autre chose qui est un peu sympa et dont on aime parler, c'est que on s'est inspiré d'un apiculteur de Haute-Garonne. Et cet apiculteur de Haute-Garonne proposait des semences de trèfle pour les abeilles. Et donc du coup, nous, ça c'est quelque chose qui nous a vraiment intrigué. On s'est renseigné et on a décidé d'offrir pour chaque commande passée, même si c'est un sachet de trèfle bio pour les abeilles. Mmh. Alors pourquoi ? Puisque en fait, les graines de trèfle produisent des fleurs. Ces fleurs sont riches en pollen et en nectar et donc du coup aident à la survie des abeilles. On sait qu'actuellement il y a pas mal d'abeilles qui meurent soit dû aux pesticides, soit dû au manque de pollen, et donc du coup le fait de semer du trèfle, ça aide les abeilles. Alors je rajouterais juste une dernière chose, c'est qu'il n'y a pas que le trèfle comme plante.
Non, je voulais que tu arrêtes là pour comme ça voilà, tu vas dire d'autres choses encore plus intéressantes que ce que tu viens de dire, notamment parler des abeilles sauvages, etc. Mais ça, on va faire ça juste après la pause. À tout de suite.
Just like the seed, I don't know where to go. Through dirt and shadow I grow. I'm reaching light through the struggle. Just like the seed, I'm chasing the wonder. I unravel myself, all in slow. Suffocate me so my tears can be rain. I will water the ground where I stand so the flowers can grow back again. 'Cause just like the seed, everything wants to land. We are burning our fingers, but we learn and forget.
You cannot eat money or love.
C'était Aurora The Seed sur Radio Campus Paris et nous sommes de retour in situ avec les représentants de Dr Jonquille et Mr Eye. Selon eux, tout commence par la graine.
In situ.
Un souffle de science
sur Radio Campus Paris.
Et c'est l'heure de retrouver Guillaume Marchand et sa chronique. Donc, mon cher Guillaume, tu t'es intéressé à la reine des graines, si on peut dire, le blé.
Oui, bah oui, la céréale la plus importante d'Europe. Alors, le pain, la semoule, les pâtes ou encore le boulgour ont un point commun, ils proviennent tous de la même graine, le blé. Bête noire des gluten-free, assaillie par les pesticides, le blé reste, malgré certaines polémiques, la céréale la plus consommée en Europe. Mais connaissez-vous son histoire ?
Non.
Non ? Et bah voilà, et bah maintenant tu vas la connaître.
Prends ça.
L'ancêtre du blé répond au doux nom de égilope et est une graminée que l'on considère aujourd'hui comme une mauvaise herbe. Le blé a commencé à être cultivé et sélectionné pour la qualité de son grain durant le néolithique. C'est une période qui débute vers les 8550 avant Jésus-Christ. Et ce dans le célèbre croissant fertile. C'est même le blé qui amorce l'agriculture et entre autres c'est une graine qui est relativement facile à cultiver. Et l'invention de la poterie entre 8000 et 7000 ans avant Jésus-Christ a permis de cuire les grains et de produire des plats à base de céréales dans la vie quotidienne, comme des bouillies ou des galettes non levées. Et ça c'est une révolution parce que sinon les céréales sont assez difficiles à digérer. Parce que en effet, vu qu'elles sont gélifiées par la température, l'amidon qui est dans les céréales est moins dense et donc du coup plus facilement assimilable par le tube digestif. Car c'est en ce dernier que se produit la réaction enzymatique qui transforme l'amidon en sucre. Et alors qu'un peu partout, le blé devient de plus en plus nutritif et domesticable, son expansion donc est exponentielle. Et du coup, c'est un bien pour un mal, car à force de la rendre plus nourrissante, son apport nutritionnel devient moins intéressant. Et ainsi, contrairement au blé sauvage, notre blé a plus d'acides gras saturés, qui est responsable de l'obésité et des maladies cardiovasculaires, que l'acide gras insaturé, qui lui est meilleur pour la santé. Alors, domestiquer, c'est très utile, mais à condition de bien respecter l'organisme originel.
Merci Guillaume pour cette parenthèse scientifique. Fort intéressante, selon moi et selon vous aussi, j'espère. Est-ce que vous saviez, vous connaissiez l'histoire du blé, Gaël, Daniel, quand vous avez préparé un petit, enfin, vous êtes lancé dans ce projet, vous avez dû faire beaucoup de recherches historiques.
Complètement. Alors, historique, peut-être pas. Et d'ailleurs, on est très content d'être là pour en apprendre davantage.
Non, mais par contre, on peut en profiter pour faire un petit point de vocabulaire. Lui, il parle de graines, donc qu'on mange, hein, le blé, alors que vous, vous parlez de semences, c'est ce qu'on plante et c'est ce qui pousse.
Alors, normalement, on devrait parler effectivement de semences, puisque les semences, c'est ce qu'on sème, et les graines, c'est ce qu'on consomme. Alors, du coup, on fait
les
deux.
On les mange pas, les graines qu'on reçoit, qu'on commande chez vous, faut pas les bouffer.
Non.
Il n'y a pas des graines de courge.
Effectivement, on pourrait les manger, par contre, ce seraient des graines qui seraient.
Vous vendez des semences.
On vend des semences. D'accord. On vend des semences qui sont destinées à être semées. Alors, après, on peut les consommer, hein, si on est un peu. On vend de la coriandre, par exemple. La coriandre, on pourrait s'imaginer qu'on puisse la consommer, mais elles sont destinées à être semées.
Florent.
Oui, je me demandais, alors est-ce que vous vendez du blé ?
On ne vend pas de blé.
Non, mais ils font du blé par contre. Enfin, pas pour l'instant. Mais ça va venir.
Non. Mais non, ce qui était intéressant.
De faire pousser des céréales chez soi ou ça demande vraiment beaucoup plus.
Franchement, moi, tout ce qu'on souhaite faire semer, on est capable de le faire semer. Moi, je m'amuse à faire des petites expériences chez moi, à prendre des pépins d'orange, de citron, les mettre dans la terre, arroser. Et là, j'arrive avec plein de petits pieds de citronniers, d'orangers. Je pense que oui, on peut tout faire semer.
Après, de la donner des fruits, c'est une autre histoire.
Ne mésestime pas mes compétences.
Ouais, écoute, tu reviendras avec tes citrons la prochaine fois dans l'émission. Tu parlais juste avant la pause des graines de plantes nectarifères qui plaisaient bien aux abeilles et qui permettaient donc de sauvegarder ces espèces en déclin. Vous avez fait aussi un partenariat avec Biome. Mais qui s'intéressent plus aux abeilles sauvages.
Exactement, ils s'intéressent eux aux abeilles maçonnes. Alors eux proposent des petites maisonnettes pour abeilles et du coup ce sont des abeilles sauvages, donc maçonnes, qui n'ont pas de dard, donc c'est-à-dire qu'on peut les prendre dans la main et elles vont butiner un type de fleurs différent des abeilles mellifères ou des abeilles domestiques qui vont, elles, aller butiner d'autres types de fleurs. Donc elles sont tout aussi importantes.
Comme les coquelicots, par exemple.
Comme les coquelicots, comme les bleuets, comme les fruitiers, notamment. Mm. Et donc, du coup, on a fait un partenariat avec eux, oui, puisqu'on a beaucoup aimé leur concept, on a beaucoup aimé ce qu'ils faisaient, et on a décidé, on a mis en place un système d'ambassadeurs, de Dr Jonquille et Mr Rye. On allait offrir au meilleur ambassadeur de Dr Jonquille et Mr Rye une maisonnette Bee Home, d'ailleurs, pour ça, puisqu'on aimait bien le projet.
On le dit jamais assez, mais la pollinisation et le fait de tout un ensemble d'insectes pollinisateurs, et pas uniquement l'abeille mellifère domestique qu'on connaît tous. Ce n'est qu'une espèce parmi un millier, je crois, d'espèces d'abeilles qui existent, solitaires la plupart du temps et sauvages.
Oui, et il est important toujours de rappeler qu'effectivement les abeilles sont très importantes pour notre environnement, pas que pour la biodiversité.
75% de notre alimentation est dépendante des insectes pollinisateurs.
Exactement.
Les arbres fruitiers, les courges, les melons, etc. Pas d'insectes pollinisateurs, ouais. Pas de reproduction.
80% de la reproduction des plantes à fleurs vient effectivement de la pollinisation. Ouais. Et le problème, c'est qu'on a 30 à 40% des colonies d'abeilles qui ont été décimées dans les 10 dernières années. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Si on n'avait plus d'abeilles, demain, l'homme... Il vivrait pendant 4-5
voilà,
ans.
C'est la
maximum.
Formule apocryphe d'Einstein. Voilà. Si l'abeille disparaissait, l'homme aurait 10 ans à vivre, je sais pas quoi. Bon, c'est pas totalement vrai, mais enfin, on comprend l'idée. C'est quoi la suite de votre projet? Comment ça va évoluer dans les prochains mois? Donc, pour l'instant, on peut acheter des graines en se connectant sur le site Dr Jonquille et Mr Hyde. Dans l'URL, c'est
www.djma.fr.
Donc, on peut retrouver des graines, les commander, retrouver toutes les informations qui concernent les différentes graines dont on a parlé.
Exactement. Et d'ailleurs, je dirais même plus, hein, si vous avez déjà acheté des graines et que vous souhaitez avoir des informations pour semer, allez sur notre site, c'est très simple. Vous allez vraiment trouver toutes les informations qu'il faut. Alors, la suite à donner à ce projet-là, on va proposer. Enfin, on va essayer de développer quelque chose pour encore plus faciliter le semis, encore plus faciliter l'aide aux personnes qui souhaitent créer un potager en semant. Et donc, du coup, on va s'atteler à ça dans les mois creux, puisqu'on a une activité saisonnière. Hein. À partir de septembre, on aura vraisemblablement moins d'activités. Et l'idée pour nous, c'est de se développer aussi là-dedans sur le conseil qu'on peut donner, qu'on peut fournir aux futurs jardiniers en herbe ou aux jardiniers déjà aguerris.
Comment on fait pour s'aimer?
Écoute, Hugo, on s'aime en se faisant des câlins.
C'était voilà, fallait qu'il la fasse juste avant de rendre l'antenne. Dédé, un dernier mot, cri du cœur, remerciement.
Je voulais remercier toute ma famille.
Non, on pense néanmoins à nos deux amis d'enfance et associés, Hugo et Théo, qui doivent être derrière leur poste de radio à nous écouter. On a fort pensé à eux ce soir, on aurait beaucoup aimé qu'ils soient là.
Donc voilà. Gaël, Daniel, Hugo et Théo, fondateurs de Dr Jekyll. Non, non. Je savais que j'allais la faire avant dans les soirées. Dr Jonquille et Mr Hyde, merci les gars d'être venus ce soir et merci pour cette émission.
Un petit dernier remerciement à nos ambassadeurs qui nous aident tous les jours à faire parler de nous. On a un petit réseau
et
d'ambassadeurs.
Qui sont partout en France. Qui sont regardé, partout.
Il y a juste 3 régions qu'on n'a pas en France. Mais du coup, merci beaucoup à eux de nous aider comme ça à développer le projet. C'est vraiment top.
Merci à tous. Merci Guillaume pour ta chronique. Florent pour
Merci
l'excellente
Hugo.
Réalisation.
Merci
Bonne
Hugo.
Soirée à tous.
Merci
et à la prochaine. Salut.
Salut.
Au revoir.